Cette année, GMF était le numéro 1 de la relation client dans le secteur assurance. C'est aussi ça, être assurément humain. Et en ce moment, profitez de 3 mois offerts pour toute souscription de contrat habitation jusqu'au 30 juin. GMF, assurément humain. Enquête 2026, Bearing Point et Kantar, conditions de l'offre sur gmf.fr.
Légion d'honneur, mais on peut au moins une fois par an leur dire, mesdames merci, et messieurs, merci d'être des contribuables.
On va faire une carte VIP dans l'administration fiscale pour qu'ils passent devant les autres.
Et on va donner le mot de la fin à Coluche, que vous citiez également, Dominique. L'humoriste s'était ému, je le cite, que les impôts soient payés avec l'argent que l'État n'a pas à gagner. À réfléchir. Merci Dominique Seux, Thomas Porchet, c'était le débat éco.
France Inter, il est 8h. Le journal, Kevin Dufraîche. Bonjour Kevin.
Bonjour à tous. Un corps retrouvé dans le Gers et une affaire qui devient politique. Une semaine après la disparition de Liana, 11 ans, réunion à Matignon ce matin autour du Premier ministre pour évoquer les dysfonctionnements autour du principal suspect visé par plusieurs plaintes. Le ministère de la Justice parle ce matin de constat d'échec et de failles systémiques. Dans ce journal, nous serons aussi au Liban, où les soignants dénoncent les bombardements israéliens sur les hôpitaux. La fin des négociations sur le rachat d'SFR attendue aujourd'hui. La fin de l'histoire dans les télécoms pour le milliardaire Patrick Drahi. Quant à 8h20, Ali et Marion, vous parlez d'inégalité avec vos invités.
Ils sont deux économistes membres du collectif mondial de chercheurs Global Justice et viennent de publier un plan, je cite, pour l'égalité et la prospérité dans les limites de la planète. Thomas Piketty et Lucas Chancel sont dans le grand entretien.
Question, réaction, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou l'application Radio France.
Comptons les oiseaux pour mieux les protéger. Pour ça, les bénévoles de la LPO utilisent leur smartphone et ça marche bien. Et un petit faux pas à 10 jours du mondial, les Bleus battus 2-1 par la Côte d'Ivoire hier soir.
France Inter.
L'autopsie devrait le confirmer dans les prochaines heures, mais il fait peu de doutes, selon les informations données par le procureur d'Agen, que le corps d'un enfant retrouvé hier dans le Gers est celui de Liana, la collégienne de 11 ans, disparue il y a une semaine à Fleurance. Le corps se trouvait à 15 km de là, dans un silo à grains désaffecté à Montestruc-sur-Gers, où habitent Liana et le principal suspect, Anne-Marie Pisoni, et la mère du village.
C'est l'issue inévitable. On s'y attendait. Et bon, pour la famille, c'est terrible. Pour nous aussi, parce que tout le monde est sous le coup de l'émotion. Quand on l'a appris, là, je suis même montée à l'école, là, parce que tout le monde était quand même très marqué. Il allait y avoir une semaine que cette jeune fille avait disparu. Et on était dans une grosse émotion collective dans le village déjà. On a vécu vraiment plusieurs jours terribles.
Les mots de la mère de Montestruc-sur-Gers au micro d'Adèle Belloumri qui témoigne de l'émotion de tout un territoire, de la colère aussi, parce que si le principal suspect reste muré dans le silence et qu'il est présumé innocent, ses antécédents judiciaires interrogent plusieurs plaintes pour viol sur mineur déposées contre lui, des questions qui se posent jusqu'au Premier ministre en personne qui convoque ce matin une réunion à Matignon à ce sujet. Bonjour Jean-Philippe Deniau.
Bonjour Kevin.
Hier soir, le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, a réagi pour la première fois. Il s'est dit, je cite, terrifié par ce qu'il qualifie de dysfonctionnement de la justice.
Oui, des dysfonctionnements révélateurs de notre mauvaise organisation, ajoute le ministre, ce que les enquêtes administratives devront donc établir. Précision ce matin du porte-parole de la chancellerie, Sacha Stroupkan, sur France Info.
Vous avez probablement une faille systémique. Par exemple, on se transmet encore au XXIe siècle des dossiers de façon papier entre des gendarmeries ou des tribunaux, alors qu'on pourrait se les transférer de façon numérisée, beaucoup plus rapide et beaucoup plus sécurisée. Et ensuite, vous avez un deuxième sujet qui est l'éventualité de responsabilité individuelle, c'est-à-dire est-ce que certains magistrats éventuellement ont commis des fautes. Cette enquête administrative pourra donner lieu éventuellement à des poursuites disciplinaires.
Défaillance individuelle, défaillance collective et aussi peut-être encore une fois un manque de moyens dans les services d'enquête, ballottés de priorité nationale en priorité absolue. Il faut un jour mettre toutes nos forces dans la lutte contre le narcotrafic, puis basculer le lendemain dans la lutte contre les violences intrafamiliales, puis contre les incivilités du quotidien, me confie ce matin un procureur, et à chaque fois, des dossiers sur le dessus de la pile repassent en dessous jusqu'à en être oubliés. Il y a 15 ans, la France découvrait que l'assassinat de Laetitia avait été rendu possible parce qu'un récidiviste n'avait pas été été correctement suivis par des services de réinsertion surchargés. Les enquêtes administratives aujourd'hui détermineront donc dans quelle part de responsabilité individuelle et systémique ont conduit à ces dysfonctionnements que dénonce le ministre de la Justice.
Et pour tenir cette réunion à Matignon ce matin, un déplacement à la prison de Vendin-le-Vieil prévu sur la criminalité organisée a été annulé. Merci Jean-Philippe Degnaud, service police-justice de France Inter. La classe politique réagit. En premier lieu, les candidats à l'Élysée. Notre système judiciaire est une faillite, estime pour les LR Bruno Retailleau. Le peuple français exige des comptes. Ça, c'est le président du RN Jordan Bardella. Quant à gauche, la patronne des écologistes, Marine Tondelier, parle d'une affaire symbole d'un système incapable de gérer le sujet des violences sexistes et sexuelles.
Il est 8h05 au Liban. La promesse d'un nouveau cessez-le-feu n'a pour l'instant aucun effet.
Un soldat israélien tué, 8 morts dans des frappes israéliennes dans le sud du Liban. Hier, la guerre continue entre Israël et le Hezbollah, milice armée alliée de l'Iran. Et les médecins et secouristes libanais vivent eux aussi sous la menace des bombes. Ces derniers jours, l'hôpital de Tir a été touché, des ambulances aussi, d'où ce rassemblement hier à Beyrouth de soignants qui manifestaient devant l'hôpital Rafik Hariri. Timur Özturk y était.
Devant l'entrée de leur hôpital, ils sont une trentaine de soignants et de personnel administratif rassemblés derrière une banderole « Stop au massacre des équipes médicales et des ambulanciers ». Wissam, anesthésiste en blouse blanche, dénonce les frappes israéliennes contre les soignants.
Ces attaques sont inacceptables au regard du droit international et des droits de l'homme.
Après le récent bombardement de l'hôpital de Tir, Rana, employée administrative, est inquiète.
On est tous exposés, on s'attend à être la prochaine cible, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devons continuer à soutenir les malades et les blessés qui arrivent à l'hôpital, quelles que soient les circonstances.
L'une de ses collègues, Nadia, approche dans son fauteuil roulant. Elle a perdu un membre de sa famille, ambulancier, il y a 2 semaines dans le sud du pays.
Il était avec son équipe. Ils allaient secourir des victimes sous les décombres d'une frappe. Quand ils sont arrivés, ils ont été bombardés. Ils sont tombés en martyrs.
Selon le ministère de la Santé libanais, plus de 130 soignants ont été tués par l'armée israélienne en 3 mois de guerre.
Timur Özturk et Benjamin Thuot, envoyés spéciaux de France Inter au Liban avec Charbel El-Sherif. Le président ukrainien peut venir à tout moment rencontrer Vladimir Poutine à Moscou. Provocation du Kremlin hier soir en réponse à une lettre ouverte de Volodymyr Zelensky qui propose un tête-à-tête au président russe et un cessez-le-feu complet, dit-il, pour mener des négociations de paix. En attendant, il faut faire en Ukraine avec la guerre au quotidien. Et c'est pour en parler que des élus ukrainiens étaient hier au sommet international des maires à Nancy, qui rassemble des décideurs locaux de pays du G7 à 10 jours du sommet d'Évian avec les chefs d'État. Astrid Meignier-Carne, vous avez rencontré plusieurs de ces maires ukrainiens qui continuent de travailler coûte que coûte pour leur ville et leurs habitants, malgré la menace russe.
Comment diriger une ville de plus de 400 000 habitants, mener des politiques publiques quand on est la cible quotidienne des drones russes? Oleksandr Zienkevich, maire de Mykolaïv au sud de l'Ukraine, raconte en costume cravate sous les hauts plafonds peints de l'hôtel de ville du XVIIIe siècle.
Il faut préserver la démocratie parce que même en temps de guerre, nous avons toujours le conseil municipal lors duquel nous décidons comment dépenser le budget de la ville, comment on va travailler dans la ville ou quelles décisions seront prises pour la santé des gens.
Et des habitudes qui ne sont plus tout à fait les mêmes.
Et aussi comment nous mettons en œuvre des politiques anticorruption grâce à l'intelligence artificielle et les procédures de procuration en ligne pour éviter la corruption.
Inventer de nouveaux usages depuis l'invasion russe, une réalité aussi pour le maire adjoint de Kherson, Vitaly Bielobrov. Son maire a été capturé en 2022.
Il y a 4 ans, nous avons créé l'administration militaire de la ville. Notre conseil municipal ne fonctionne pas. Donc sa tâche principale est de trouver un équilibre entre sécurité, transparence et démocratie.
Des maires ukrainiens érigés en modèles de résilience qui préviennent les Européens. Pour garantir la sécurité de leurs frontières, il faut encore fournir des armes à l'Ukraine.
Le reportage d'Astrid Meignier-Carne.
Rideau pour Patrick Bruel au théâtre Édouard VII à Paris.
Les 5 dernières représentations de la pièce dans laquelle il jouait ces dernières semaines sont annulées. Alors le théâtre n'apporte pas d'explication, mais on connaît le contexte. Le chanteur et comédien visé par plusieurs plaintes pour viol, présumé innocent, il nie toutes les accusations portées contre lui. Patrick Bruel a déjà annulé tous ses concerts prévus cet été en France. Il a été déprogrammé au Québec. Autant de victoires, Nina Pavant, pour les associations féministes.
Les dernières représentations de Patrick Bruel étaient émaillées de manifestations des militantes de l'association Nous Toutes, devant et à l'intérieur de la salle du théâtre Édouard VII.
C'est une grande victoire féministe.
Claudia, membre de l'association, se réjouit de cette annulation.
Ça montre que, en fait, les collectifs féministes ont du pouvoir.
Elle refuse l'idée d'un tribunal médiatique qui serait passé avant la justice.
Il faut rappeler que la présomption d'innocence, c'est un principe de procédure pénale. Donc, ça ne concerne que la justice. Ça ne concerne pas la société civile. On parlera jamais de tribunal médiatique, mais en fait, aujourd'hui, de révolution féministe.
Aude Loriot, membre du collectif de journalistes Prenons la Une, note une évolution dans le traitement médiatique des accusations visant Patrick Bruel.
Lors de la première affaire Patrick Bruel, il y a quelques années, il y avait eu beaucoup moins d'écho. Ça avait été un petit peu enterré. Le fait que les concerts soient annulés, c'est la résultante d'une forme de pression militante, médiatique, publique. Ça, c'est à mettre au crédit à la fois des militantes et des médias qui s'emparent de ces questions.
Plusieurs associations féministes, comme Nous Toutes, réclament surtout une exemplarité des théâtres et des scènes de spectacle vis-à-vis d'artistes visés par des accusations de violences sexistes et sexuelles.
Nina Pavant, un agent de l'Office national des forêts, était mis en examen hier soir dans l'enquête sur le feu qui a ravagé le massif des Corbières dans l'Aude l'été dernier, poursuivi pour destruction involontaire par incendie aggravé. Les enquêteurs cherchent à établir si le feu a pu partir d'un mégot de cigarette jeté d'une voiture durant une patrouille de l'ONF. Placé sous contrôle judiciaire, l'agent nie toute implication. C'est en théorie aujourd'hui que se terminent les négociations sur la vente d'SFR. Ses concurrents des télécoms, Bouygues, Orange et Free, vont se partager l'opérateur dont la valeur est estimée à 20 milliards d'euros. Ce qui va signer la fin de l'aventure dans le secteur de Patrick Drahi, le milliardaire qui a déjà vendu ses médias, BFM et RMC il y a 2 ans, s'éloigne, Agnès Soubiran, encore un peu plus de l'Hexagone.
Et c'est désormais hors de France que Patrick Drahi construit un nouvel empire. D'abord à Tel Aviv, où il a fait le choix de s'installer. Déjà propriétaire de la chaîne internationale E24 News, il vient d'investir dans la 13e chaîne israélienne. Aux États-Unis, l'homme d'affaires possède encore des activités dans les télécoms, 4,5 millions de clients via la marque Optimum. Il détient également un réseau de chaînes de télé locales et surtout, il est depuis 2019 l'actionnaire majoritaire de la maison de vente aux enchères Sotheby's. Enfin, via la maison mère de SFR, Altice, il reste très implanté en République dominicaine et au Portugal, mais c'est aussi son talon d'Achille, car son ancien associé Armando Pereira a engagé un bras de fer très dur, avec un premier revers de taille pour le milliardaire. La saisie il y a quelques jours par la justice suisse d'une maison et d'un chalet luxueux. L'an dernier, Patrick Drahi, à la tête d'une fortune estimée à 7 milliards d'euros, occupait encore la 19e place du classement du magazine Challenge.
Agnès Soubiran, là il y a de la friture sur la ligne au Rassemblement National. Qui sera dans un mois, qui sera son candidat à la présidentielle? Ça dépend de la décision au procès en appel dans l'affaire des assistants parlementaires. Officiellement, Marine Le Pen et Jordan Bardella travaillent de concert sur le programme. Mais les dissensions se multiplient. Lise Roseveille, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez le RN pour France Inter. Le gros point de friction ces derniers jours, c'est le dossier des retraites, puisque Jordan Bardella remet en cause la position de Marine Le Pen sur l'âge légal de départ.
Il n'aurait jamais dû sortir ça avant le 7 juillet, peste un proche de Marine Le Pen. À 2 reprises, en quelques jours, Jordan Bardella suggère que l'âge légal de départ à la retraite ne veut rien dire. C'est le nombre d'annuités qui fait foi. Il assure que le parti examine un nouveau modèle. À France Inter, il indique même envisager une part de capitalisation. Pourtant, entre-temps, Marine Le Pen avait clos le sujet. La réforme du RN, un départ à 62 ans, est toujours d'actualité. Elle a sifflé la fin de la partie et il n'a pas écouté. C'est une première, s'étrangle un lieutenant. Dans ce parti bonapartiste, les pas de côté assumés de Jordan Bardella sur la taxation des surprofits, la fiscalité ou la baisse des charges sociales désarçonnent.
Et du côté des soutiens de Marine Le Pen, Lise, on craint un virage important sur le programme, donc si Jordan Bardella est candidat.
Oui, le président du RN a toujours assumé une vision plus libérale, faisant les yeux doux aux électeurs de droite. Il va aujourd'hui jusqu'à interroger des fondamentaux du RN, des marqueurs sociaux. Économiquement, on va faire du Zemmour et on va se planter, s'inquiète un député. Comment se différencier aussi d'Édouard Philippe ou Gabriel Attal si le programme est trop libéral? Des élus se projettent déjà sur le terrain, obligés de défendre ces mesures. Les plus fidèles à Marine Le Pen pourraient-ils claquer la porte après le 7 juillet ou être mis au placard? L'un d'eux ose, de toute façon, si c'est lui le candidat, avec cette ligne, on perd.
Lise Roseveille, service politique de France Inter. 20 millions d'individus en moins par an, les populations d'oiseaux se sont effondrées en Europe. C'est l'alerte ce matin sur France Inter d'Alain Bougrain-Dubourg, qui était votre invité à 6h20, Marion, oui, à l'occasion de la publication par la Ligue de protection des oiseaux du premier baromètre de l'avifaune, c'est-à-dire l'ensemble des espèces d'oiseaux. Une étude rendue possible par la mobilisation de dizaines de milliers de bénévoles qui comptent les volatiles près de chez eux, aidés ces dernières années par des applications mobiles. Gabin Grulet a fait le test dans la forêt de Saint-Germain-en-Laye, tout près de Paris.
Des jumelles autour du cou, Laure, ornithologue amatrice, tend son oreille et son téléphone.
Je vais pointer l'endroit où est l'oiseau. Ti, ti, ti. Ça, c'est le grain pro des jardins.
Son application Merlin Birds lui confirme.
Vous avez la photo du grain pro. Il a un bec recourbé et très fin. Ah, je le vois.
Mais quelques arbres plus loin, la technologie montre ses limites.
Je dirais que c'est un rouge-gorge, mais Merlin le capte pas. Il faut que je me fie à ma vue et à mes oreilles. Merlin n'est pas toujours fiable, c'est une sorte d'aide. Et puis, souvent, je suis contente de confirmer ce que j'ai entendu grâce à Merlin. Et là, vous voyez, ça, c'est une hirondelle.
Laure ressort vite son téléphone.
Donc là, combien on envoie ? 2, 3,
et rentre 5. Toutes ces données dans une autre application créée par la LPO, Naturaliste. Elle remplace les feuilles de comptage. Laurent Cousy est responsable du pôle connaissance.
Les gens peuvent saisir directement sur le terrain. Nous, au bout, on récupère des jeux de données qui sont extrêmement propres et qui collent parfaitement au protocole. On ne pourrait pas avoir les résultats qu'on a si on ne s'appuyait que sur des professionnels. Il n'y aurait pas assez de gens.
Naturaliste compte cette année 45 000 contributeurs. Merlin, plus grand public, a vu son nombre d'utilisateurs actifs passer de 3 à 10 millions en 2 ans.
Gabin Grulet. Et puis c'est inattendu, l'équipe de France de foot battue hier soir à Nantes 2-1 par la Côte d'Ivoire en match de préparation à la Coupe du Monde. Les Bleus avaient pourtant ouvert le score grâce à Ryan Cherki, peut-être désorganisé par les 10 changements au total opérés pendant le match par Didier Deschamps. Il reste un match amical lundi face à Lille, face à l'Irlande du Nord. On dira qu'il vaut mieux que la défaite arrive maintenant que pendant la compétition qui commence dans 10 jours pour
les
Bleus.
Ils vont se reprendre.
Mais oui.
C'était le journal de Kevin Dufraîche. Il est 8h16 sur France Inter.
La météo avec CNP Assurance. Jour après jour, avec CNP Assurance, assurons un monde plus ouvert.
Céline Dacosta, c'est un peu frais par endroit ce matin.
8 degrés à Aurillac, 9 à Orléans ou à Nantes, 10 à Agen ou Tours. C'est vrai que c'est un peu frais. 11 à Clermont-Ferrand, 12 à Mulhouse, Bordeaux ou Paris, 13 à Lille et Biarritz. C'est même la matinée la plus fraîche de cette semaine. C'est un petit peu plus doux près de la Méditerranée avec 16 à Toulon ou 18 à Bastia cet après-midi aussi. La moyenne sera un petit peu juste pour la saison. On sera à 1 à 3 degrés sous les normales de saison. 16 à 21 degrés seulement du nord au sud. On rajoute quelques degrés près de la Méditerranée. On va voir pourquoi avec 23 à 26 degrés.
Et tout ça sous un ciel très variable.
Oui, à part sur les côtes méditerranéennes et la Corse où le soleil va briller généreusement, d'où les températures un petit peu plus élevées. Et ça toute la journée, on aura quand même de bonnes rafales de vent, Mistral, Tramontane, un vent d'ouest également sur les côtes corses. Et puis pour les autres, le ciel sera partagé entre nuages nombreux, éclaircies, averses. Ce sera un petit peu moins pire qu'hier, des éclaircies qui seront par moments même un petit peu franches. Mais on a compris, on garde son parapluie à portée de main.
Merci Céline Dacosta et bon réveil sur France Inter. Il est 8h17, géopolitique.
Le 6-9. Listen anywhere.
Sur France. Bonjour Pierre Aski.
Bonjour.
Aujourd'hui, Pierre, vous vous intéressez au revers politique de Donald Trump.
Depuis son retour à la Maison-Blanche, Ali, Donald Trump s'était forcé d'affaiblir les contre-pouvoirs. Il semblait avoir réussi au Congrès, dont les deux chambres sont majoritairement républicaines. Il vient pourtant de subir plusieurs revers parlementaires qui permettent de s'interroger à quelques mois des élections de mi-mandat. Son emprise sur son parti est-elle menacée ? La principale manifestation de cette résistance, le mot est sans doute excessif, a contraint la Maison-Blanche à reculer sur un projet très controversé auquel tenait le président, un fonds d'1,8 milliard de dollars destiné à indemniser en particulier les assaillants du Capitole le 6 janvier 2020. Plusieurs élus républicains outrés ont fait connaître leur refus, et Trump a jugé plus sage de ne pas soumettre la décision au vote, sans doute son plus grand revers en 18 mois. Puis cette semaine, la Chambre des représentants a voté pour restreindre les pouvoirs du président sur sa guerre en Iran. Le vote est passé grâce au ralliement de 4 républicains aux côtés des démocrates. Ce texte n'ira sans doute pas plus loin, mais il constitue un précédent impensable jusqu'ici.
Et comment s'expliquent ces signes de défiance ?
Alors, les motivations des frondeurs sont multiples, Marion. Parmi les 4 défections sur l'Iran, 2 sont des libertariens opposés aux interventions extérieures, les 2 autres des républicains plus classiques, mais élus de circonscriptions où les conséquences de la guerre passent mal. Ces premiers craquements sont surtout le reflet des hésitations des électeurs face à la gestion erratique de Donald Trump sur à peu près tous les sujets. De l'économie à la guerre, du pouvoir d'achat mis à mal par les prix du pétrole, au népotisme et aux conflits d'intérêts qui commencent à se voir sérieusement. Certains républicains redoutent la sanction des urnes en novembre et prennent leur distance. Il faut dire que la gestion de la guerre en Iran par le président n'est pas de nature à inspirer la confiance. Il lance des informations contradictoires toutes les 3 heures, n'a jamais réussi à convaincre qu'il avait une stratégie cohérente et n'offre aucune perspective de sortie de cette situation dans laquelle le détroit d'Ormuz reste fermé.
Est-ce qu'il est menacé de perdre le soutien des républicains ?
Alors, Donald Trump conserve son pouvoir sur le noyau dur de ses électeurs. Les candidats qu'il soutient l'emportent généralement dans les primaires républicaines en vue des midterms. Ainsi, Thomas Massey, élu du Kentucky, l'un des 4 à avoir fait défection, a perdu sa primaire contre un loyaliste trumpien et ne sera pas dans le prochain congrès. Trump n'est donc pas directement menacé, mais risque d'avoir à négocier ses grandes décisions au lieu de diriger seul. Au-delà de la politique intérieure américaine, cette question a de l'importance pour le reste du monde. Les décisions du président des États-Unis ont un impact mondial, qu'il s'agisse des droits de douane, de la paix et de la guerre, ou de l'avenir de l'OTAN. Si les contre-pouvoirs disparaissent, la concentration des décisions entre les mains d'un seul homme, même un génie stable, comme il a pu se décrire lui-même, a de quoi inquiéter. Il ne sera donc pas indifférent que des élus républicains se rebiffent. Dans son célèbre essai sur l'Amérique, Alexis de Tocqueville avait vanté, au XIXe siècle, les contre-pouvoirs de la démocratie américaine. Trump les soumet à rude épreuve, mais il n'est pas sûr qu'il puisse les réduire au silence.
Pierre Raski, merci. C'était Géopolitique à suivre sur France Inter. Le grand entretien avec les économistes Thomas Piketty et Lucas Chancel.
Ce vendredi sur France Inter, enquête sur la menace masculiniste.
18h15, Benoît Colomba.
Ils ont la haine des femmes et veulent se venger par tous les moyens. Venu des États-Unis, le masculinisme est en plein essor en France, avec un risque terroriste bien réel pour les services de renseignement.
En quelques mois seulement, quelqu'un peut passer d'un adolescent à peu près dans la construction normale à quelqu'un de radicalisé et prêt à passer à l'acte.
Révélation, le magazine d'investigation de France Inter.
C'est ce vendredi après le journal de 18h et dès maintenant sur l'appli Radio France.
En France, les fruits et les légumes frais bio, on les mange à toutes les sauces. À l'apéro, en salade, en flan, en brochette ou encore en smoothie quand on a fini toutes les brochettes. Bref, en France, on aime tout ce qu'il y a de plus bio. C'est bio les fruits et légumes frais.
Merci d'écouter Inter, il est 8h22.
France Inter, Ali Badou, Marion Lourd, le 6-9.
Un autre monde plus juste est-il possible ? Peut-on rêver ? Peut-on même construire un monde avec moins d'inégalités, plus respectueux de l'environnement ? 2 grands économistes avec nous ce matin dans le studio de France Inter pour parler d'un rapport qu'ils viennent de publier cette semaine avec un collectif international de chercheurs, un rapport sur la justice mondiale à l'horizon 2100 et même une feuille de route pour y parvenir. Alors utopie ou pas, on va en débattre ce matin. Question réaction, chers auditeurs, au 01 45 24 7000 ou l'application Radio France. Thomas Piketty, Lucas Chancel, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et bienvenue Thomas Piketty, on ne vous présente pas, vous avez co-dirigé le laboratoire sur les inégalités mondiales, vous le co-dirigez toujours avec Lucas Chancel. Lucas Chancel, vous êtes enseignant associé à Sciences Po et à la Harvard Kennedy School aux États-Unis. Thomas Piketty, vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et professeur à l'école d'économie de Paris. On va essayer de comprendre votre démarche. Ce rapport, c'est un texte important qui va devenir un livre, apparaître en novembre prochain aux éditions du Seuil. Partons d'abord tout simplement de cette question à laquelle j'aimerais que vous répondiez l'un et l'autre en quelques mots. Qu'est-ce d'abord qu'une société juste ? Thomas Piketty.
Une société juste, pour nous, c'est une société où tous les membres de cette société peuvent avoir accès au plus grand ensemble possible de biens fondamentaux au sein desquels figurent l'éducation, la santé, la culture, la participation aussi à l'ensemble des décisions démocratiques et économiques. Et donc, c'est une société juste, elle doit d'abord partir de ses objectifs fondamentaux. Et donc, nous, dans ce rapport sur la justice mondiale, on part d'une situation actuellement qui est celle d'une immense inégalité sur la planète.
Oui.
Le revenu moyen, le revenu national brut par habitant varie en gros de 250 euros par mois en Afrique subsaharienne à 4500 euros par mois en Amérique du Nord. Et il faut partir du principe que les pays du Sud, en Inde, en Afrique, ont une aspiration à la prospérité, à rejoindre une prospérité comparable à la nôtre, qui ne va pas partir comme ça. C'est-à-dire, ça peut être, dans les pays du Nord, on peut se dire, oh bah non, mais c'est quand même un peu compliqué. Oui, c'est compliqué, mais ça va pas partir comme ça. Donc, on essaye de se poser la question, dans ce cas-là, quel doit être ce niveau de prospérité commune? Et évidemment, alors, on a cette cible de 5000 euros par mois.
On va y venir, justement.
Mais la question, c'est vraiment changer la nature même de la prospérité, avec justement plus d'éducation, de santé, peut-être moins de moyens matériels. Donc, il faut s'interroger en même temps sur la notion même de prospérité.
Avant d'entrer dans les propositions, Lucas Chancel, il y a quelque chose qui relève de l'utopie. On peut vous répondre qu'il y a toujours eu des riches et des pauvres, et particulièrement à l'échelle de la planète. Comment imaginer une société juste ?
Eh bien, peut-être en s'intéressant à l'histoire et en regardant les transformations profondes et pour certaines très positives de notre système économique au cours des 100 dernières années. Donc c'est un travail qui est collectif, 45 chercheurs sur 4 continents, qui s'intéressent à l'économie, mais aussi à l'histoire et aux sciences du climat. Quand on regarde les inégalités, dans les pays riches au début du XXe siècle, on observe des écarts entre les 10% du bas et les 0,1% du haut, donc l'échelle des revenus, ils étaient de l'ordre de 1 à 100. Ces écarts ont baissé à une échelle de 1 à 10 dans les années 80. C'est une formidable réduction, compression des inégalités observées au XXe siècle. Ils ont un petit peu remonté depuis.
Nous ne sommes pas condamnés au pire.
Nous ne sommes absolument pas condamnés au pire. Et on le voit en fait sur plusieurs dimensions. On le voit aussi sur le temps de travail. Le temps de travail au début du XXe siècle, c'est dans un pays comme la France, on travaille 6 jours sur 7, 52 semaines par an, 10 heures par jour. Aujourd'hui, on travaille 7 à 8 heures par jour. On a 2 jours de week-end, on a 5 semaines de congés payés. Et se dire qu'on aurait atteint le niveau ultime de progrès social, de développement humain, qu'on pourrait plus progresser du tout. Bon, en fait, ça tient vraiment d'une sorte de défaitisme de la pensée progressiste. Ce qu'on essaye de faire dans ce rapport, c'est de se demander comment est-ce que tout cela peut boucler sous contrainte climatique et en respectant les enjeux de ressources planétaires, de ressources matérielles qui sont évidemment centraux au XXIe siècle.
Alors votre plan, c'est un plan pour l'égalité et la prospérité dans les limites de la planète. Mais c'est vrai, Thomas Piketty, qu'on a tendance très souvent à opposer l'économie et l'environnement. Or, là, ce que vous essayez de faire, c'est de combiner les deux.
On n'a pas le choix. À nouveau, on n'a pas le choix parce que si on ne fait rien, les pays du Sud vont s'enrichir de la même façon que ce qu'on a fait, c'est-à-dire en utilisant toujours plus d'énergie fossile. Hein, on voit ce qui se passe avec Trump, mais plus généralement à l'échelle de la planète, on a aujourd'hui une relance des énergies fossiles qui fait que dans les dernières prévisions énergétiques, en 2050, en 2080, on continuera de brûler énormément de fossiles. Donc si on ne propose rien d'autre, si on ne propose pas un autre modèle, l'Inde, l'Afrique, l'Amérique latine vont s'enrichir en utilisant finalement le même modèle que ce qui a été utilisé en Europe, en Amérique du Nord, avec énormément d'émissions carbone. Et on va être sur des scénarios avec des réchauffements qu'on estime à au-delà de 4 degrés, qui sont vraiment cataclysmiques. Et puis, si on laisse les inégalités à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre des millions de drones dans la Méditerranée pour empêcher les gens de traverser. Enfin, vous voyez, de tous les points de vue, que ce soit d'un point de vue climatique, d'un point de vue social, le monde que nous décrivent les techno-nationalistes de type Trump et tous les petits Trump qu'on a un peu partout, c'est un monde qui est totalement dystopique. Alors nous, il y a une forme d'utopie dans ce qu'on décrit, mais en même temps, l'alternative, c'est aussi une utopie, mais une utopie complètement dystopique. C'est-à-dire que quand Trump dit « Moi, les électeurs américains me laissent pas faire, mais j'irai bien piquer toutes les réserves pétrolières de l'Iran », est-ce que c'est utopique? On est vraiment dans une affirmation d'une vision du monde techno-nationaliste, où c'est la fuite en avant vers les fossiles, la fuite en avant vers le réchauffement, la fuite en avant vers la hiérarchie des sociétés, des origines, des humains en général. Et ce camp politique-là, il n'hésite pas à mettre son agenda vraiment sur la table. Et nous, on pense qu'il est temps que le camp, disons, internationaliste, égalitaire, qui a des objectifs de justice climatique, sociale, économique, se projette dans l'avenir et décrive un monde plus désirable selon nous.
Alors pour que tout le monde comprenne bien, et avant de présenter l'objectif principal de votre projet, vous citez dans le rapport Thomas Piketty, le ministère du futur, c'est un roman d'anticipation, une dystopie de Kim Stanley Robinson. Racontez-nous ce que vous a enseigné ce livre qui imagine une catastrophe climatique de masse. Pourquoi partir de cette catastrophe-là, de ce livre-là ?
Alors Kim Stanley Robinson était hier à l'École des communes de Paris où on organise cette grande conférence sur les inégalités mondiales et je débattais avec lui. On va voir aujourd'hui, Lucas va débattre avec beaucoup d'auteurs de rapports du GIEC qui, j'espère, intégreront davantage la question des inégalités à l'avenir. Kim Stanley Robinson, dans le ministère du futur, effectivement, imagine une catastrophe climatique qui se passerait, en gros, dans les 10 ans qui viennent, où on a une vague de sécheresse et une vague de chaleur